Bonjour à tous. C'était il y a un peu plus d'un mois. La décapitation de Samuel Paty sidérait la France, au point qu'on se demande encore aujourd'hui qui est son assassin, comment un Tchétchène de 18 ans a pu devenir ce terroriste capable de commettre un acte aussi odieux. C'est donc ce qu'on va essayer de comprendre avec vous, Laetitia Chérel, en examinant son parcours. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Nicolas Legendre, en duplex de Rennes. Bonjour également.
Bonjour.
Alors avec vous, on parlera de toute autre chose pour la revue 21. Vous avez-vous enquêté sur un trafic international de civelles? Ce sont des bébés anguilles et vous nous expliquerez pourquoi ils rapportent ce trafic désormais autant que le trafic de cocaïne.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin. France Inter.
Conflans Sainte-Honorine qui se réveille donc sous le choc, médusé ce matin après la mort de ce professeur d'histoire-géographie décapité près de son collège. L'enseignant avait montré des caricatures de Mao.
Voilà, ça c'était un extrait d'un journal du 17 octobre dernier sur France Inter. Depuis, on a beaucoup enquêté sur les circonstances de ce drame. On a raconté comment une élève qui n'avait pas participé au cours de Samuel Paty a provoqué une polémique sur les réseaux sociaux, comment un prétendu représentant des musulmans de France a ensuite attisé la haine et comment un islamiste tchétchène de 18 ans a finalement pu identifier sa cible. Alors on vient d'entendre des informations qui ont été données ce 17 octobre, mais très peu de temps après, ce jour-là d'ailleurs, Laetitia Chérel, on en apprend un peu plus.
Oui, nous sommes au lendemain du drame. Le procureur du parquet antiterroriste livre les premiers éléments que les enquêteurs ont pu découvrir. Devant la presse, Jean-François Ricard explique qu'après avoir décapité l'enseignant et avant d'être abattu par la police, l'assassin, Abdullah Kanzorov, un Tchétchène de 18 ans, a revendiqué son acte sur Twitter.
Immédiatement après les faits, un message de revendication avait été posté sur un compte Twitter nommé Al-Ansar Tchétchène 270, accompagné d'une photo macabre de la victime et du texte suivant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de
Abdullah.
La voix glaçante d'Abdullah Kanzorov que vous entendez dans un autre message qu'il avait posté cette fois-ci sur Instagram et dont on vous fera grâce de la traduction qui est tout aussi glaçante. Alors voyons maintenant plus précisément comment il en est arrivé là, Laetitia Chérel, et pour ça, il faut revenir en arrière.
Oui, alors Abdullah Kanzorov est né en 2002 à Moscou. L'année d'après, ses parents quittent la Russie pour se réfugier en Pologne. Son père expliquera plus tard qu'il avait aidé des combattants tchétchènes et qu'il craignait de faire l'objet de représailles. Et puis, en 2008, la famille part s'installer en France. Le jeune Kanzorov a alors 6 ans. Ses parents obtiennent le statut de réfugié en 2011. Et lui, sa carte de séjour à sa majorité en 2020.
Oui, donc jusque-là, c'est le parcours assez classique d'une famille de réfugiés.
Oui, Abdullah Kanzorov grandit avec ses 5 frères, dont il est l'aîné, dans le quartier populaire de la Madeleine, à Évreux, dans l'Eure. Un quartier où vivent environ 200 réfugiés tchétchènes, comme eux. Ce quartier, on l'appelle le PSR, ou la prison sans retour, parce que la maison d'arrêt est juste à côté. Kanzorov, lui, peut la voir depuis son HLM. Autre particularité, ce quartier n'a pas été concerné par les départs en Syrie dans les années 2014-2015, hormis un ou deux jeunes qui sont partis.
Et a priori, à cette époque, donc, c'est une famille sans histoire.
Oui, les Kanzorov sont discrets. La mère s'occupe de ses enfants, le père travaille dans la sécurité, ils font leur vie dans leur coin. Et un de leurs proches, un Tchétchène, les décrit comme assez peu investis dans leur communauté. Nous avons fait lire ses propos.
Ils ne participaient pas beaucoup au rassemblement ou au mariage parce que le père travaillait la nuit ou qu'il était en déplacement. Le reste de la famille voulait rester tranquille.
Et à cette époque, alors, Laetitia, le fils Kanzorov, lui, il est perçu comment?
Eh bien, ceux qui l'ont connu disent que c'était un garçon discret et plutôt serviable. Écoutez ce que m'a raconté un habitant de son quartier qui a tenu à rester anonyme.
Je le voyais souvent avec son grand-père. Il l'accompagnait presque tous les jours à l'hôpital car il avait des problèmes de santé. Il lui faisait ses courses. Il n'a jamais manqué de respect à ses parents. Quand il nous croisait dans la rue, il nous demandait toujours si on avait besoin d'un coup de main. Il ne traînait pas dehors, il était toujours à l'heure chez lui, ne sortait jamais la nuit. Déjà, il n'est jamais sorti d'Évreux tout seul, jamais. Sauf quand son père l'a amené une fois à Toulouse, c'est tout.
Donc c'est la vie d'un gamin sans histoire.
Alors pas tout à fait, hein, parce qu'il est tout de même connu des services de police pour des faits de petite délinquance, comme dégradation de biens publics et violence en réunion. Une voisine raconte d'ailleurs que lui et ses frères avaient la fâcheuse habitude de casser des carreaux. Elle l'a dit à nos confrères du journal du dimanche. Et à ce propos, je dois vous dire qu'il a été très difficile d'obtenir des témoignages dans ce quartier où les gens se sont complètement fermés depuis l'assassinat. Les rares qui ont accepté l'ont fait sous le sceau de l'anonymat.
Oui, ce qui apparaît lorsqu'on les écoute, Laetitia, c'est que très tôt, Abdullah Kantzorov est fasciné par les sports de combat.
Oui, comme beaucoup de membres de sa communauté d'ailleurs. Il pratique la boxe et fréquente assidûment une salle de musculation, comme l'a expliqué ce jeune dont nous avons fait lire les propos.
Il allait à la boxe anglaise à Netreville et à la boxe chinoise du centre-ville. Je le voyais souvent avec son daron qui l'accompagnait, mais il s'entraînait surtout à la salle de muscu au fitness park. Il se donnait à fond, il était très respectueux avec l'entraîneur. Mais je crois que son rêve, c'était de devenir un combattant professionnel de MMA.
De MMA, alors on va expliquer.
Alors c'est un sport de combat qui vient d'être autorisé en France. Les adversaires s'affrontent dans une cage. Mais ce sport est assez décrié parce que presque tous les coups sont permis. En tout cas, c'est quasiment un sport national en Tchétchénie.
C'est un peu une tradition là-bas. Mais on peut pratiquer un sport de combat sans être pour autant quelqu'un de violent, non ?
C'est vrai, mais cette aptitude à la bagarre, ce tempérament impulsif qu'on nous a décrit, Abdullah Kantzorov le manifeste aussi en dehors de la salle de musculation, et pas toujours pour des mauvaises raisons d'ailleurs. Écoutez ce que m'a raconté ce proche dont nous avons fait lire les propos.
Il était bagarreur, c'est sûr, mais moins que beaucoup de jeunes du quartier. Le 14 juillet dernier, il a dégagé des petits qui mettaient le feu aux poubelles, comme chaque année. Il est le seul à être sorti de chez lui et il leur a dit « Partez, il y a des gens qui habitent ici ».
Oui, donc cet homme qu'on vient d'entendre, lui, a apprécié son intervention, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Ah non, il y a 2 ans, par exemple, Abdullah Kantzorov participe à une rixe à la sortie de son lycée, avec sa bande de copains tchétchènes, contre des jeunes originaires d'Afrique noire et d'Afrique du Nord. Il se retrouvera au commissariat d'Evreux, comme en témoigne encore ce proche.
C'était une bagarre assez violente, avec des coups de pied et des coups de poing. Il y a un maghrébin qui a pris une raclée. Ses parents étaient en colère, mais je sais qu'il y a eu un arrangement avec eux.
Bon, ce qui semble en tout cas, Laetitia, c'est qu'il a le coup de poing quand même assez facile.
Oui, et c'est d'ailleurs suite à cette bagarre qu'il va être exclu de son lycée professionnel Augustin Hébert à Évreux. À ce propos, un directeur d'établissement professionnel m'a expliqué que cette rixe avait dû être particulièrement brutale. Parce qu'il est assez rare qu'on exclue définitivement un élève pour ce genre d'incident.
Et après ça, donc, qu'est-ce qu'il fait ?
Eh bien, Abdullah Kantzorov arrête ses études et il entre dans la vie active. C'est ce que m'a encore expliqué cet ami qu'on a entendu tout à l'heure.
Il n'a pas trouvé de lycée qui l'acceptait. Alors son père, il l'a mis au travail sur des chantiers avec des Turcs. Et parfois, il partait très loin d'Evreux pour le boulot. À partir de ce moment-là, on l'a plus trop vu dans le quartier, sauf à la salle de sport.
On l'a plus trop vu, et qu'est-ce qu'il devient alors ?
Eh bien, il semble qu'il y ait un premier point de bascule dans sa radicalisation, car jusqu'à ce moment-là, selon ses proches, il avait une pratique modérée de l'islam. Il allait prier à la mosquée à Salam, pas loin de chez lui, une mosquée sans histoire. Mais il semble qu'il y avait déjà un terrain propice. Une de ses anciennes professeurs se souvient d'un élève qui, en classe, était attaché à la religion. C'est ce qu'elle a raconté sous le sceau de l'anonymat à Rudy Pupin, qui est journaliste à France Bleu Normandie.
Sur son agenda, il dessinait des symboles religieux, il écrit des vivalas par exemple. Et ce cahier de texte, il ne cherchait pas du tout à le cacher, il le mettait bien en évidence. En ce qui concerne sa relation avec les autres élèves, il avait des copains, mais ne parlait pas du tout aux filles. Il se mélangeait jamais avec elles. C'est ce que pense la maîtresse, qui a le sentiment qu'Abdullah, lui, a vécu des traumatismes, vu des choses dans son enfance qu'il n'aurait jamais dû voir. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, elle a le sentiment, ce sont ses mots, d'avoir raté un truc à l'époque, de ne pas avoir, avec ses collègues, détecté une possible radicalisation, de ne pas avoir contré cela. Et tout fait sens aujourd'hui, finalement.
Ouais, tout fait sens. Maintenant, si on écoute ses proches, Laetitia, tous vous disent qu'il ne s'était rendu compte de rien.
Oui, il n'avait pas changé sa façon de s'habiller. Il était peut-être devenu un peu plus renfermé. Mais peu de gens savaient alors qu'il avait un contact à Idlib, un des derniers bastions djihadistes en Syrie, et qu'il avait même l'intention d'y aller, selon l'enquête policière en cours.
Et ses parents, eux, ils n'ont rien remarqué ?
Eh bien, eux disent qu'ils n'ont rien vu venir, mais c'est un classique dans les processus de radicalisation. Les parents sont souvent les derniers au courant. D'autant que, selon un proche d'Abdullah Kanzorov, ils n'ont pas une pratique rigoriste de l'islam. Leur fils considérait même que le père était trop modéré.
Sur son compte Instagram, il avait écrit à son contact à Idlib en Syrie « Mon père n'est pas comme vous à fond dans l'islam ». Aujourd'hui, son père, il pleure. Il est persuadé que son fils s'est fait retourner la tête par ce type en Syrie. Il aimerait bien savoir qui c'est.
Il s'est fait retourner la tête par son contact en Syrie. Mais est-ce que ça veut dire pour autant, Laetitia, que son geste a pu être commandité depuis la Syrie ?
Alors c'est sans doute un peu plus compliqué que ça. Lui était fasciné par les djihadistes et c'est bien au nom d'un islam radical qu'il a commis son acte. Mais pour autant, il n'aurait pas fait allégeance à un mouvement particulier. C'est du moins ce qu'affirme Wassim Nasr. Il est journaliste et spécialiste des mouvements djihadistes à la chaîne France 24.
Il a écrit son testament 4 heures avant cet assassinat. Donc s'il voulait le faire au nom d'Al-Qaïda, il aurait pu le faire. Au nom de l'État islamique, il aurait su pu le faire. Il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas revendiqué d'un groupe ou d'un autre. Et il n'y a aucun groupe qui a revendiqué son acte. Donc en ce qui concerne l'État islamique, ils l'ont qualifié de jeune musulman, c'est-à-dire pas de djihadiste ou de combattant, sans s'approprier l'acte. Al-Qaïda aussi, ils ont fait un communiqué en disant c'est bien ce qu'il a fait pour venger le prophète, mais sans pour autant s'approprier l'acte, comme c'était le cas avec les frères Kouachi.
Pourtant, toujours selon ce journaliste, Abdullah Kanzorov se disait proche d'un autre mouvement djihadiste qui n'est ni Daesh, ni Al-Qaïda, et qui s'appelle HTS. Mais Wassim Nasr soutient qu'il n'en faisait pas partie non plus.
Aux premières informations, comme quoi il avait des contacts à Idlib, en Syrie, j'ai tout de suite, moi, contacté le porte-parole de HTS, c'est le groupe dominant à Idlib, en Syrie, qui m'a dit « on n'a rien à voir avec cette affaire, on ne sait pas qui est ce jeune homme, tout le monde peut parler avec tout le monde, on n'a rien à voir avec tout ça ».
Et donc il aurait agi de son propre chef au nom d'une idéologie qu'il s'est construite, hein, comme on l'a vu avec d'autres d'ailleurs depuis la chute de l'État islamique en Syrie, mais a priori, si on l'entend, donc sans véritable commanditaire.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu dans quel contexte a grandi l'assassin de Samuel Paty, quel était son goût pour les sports de combat et sa vision radicale de l'islam, Laetitia Chérel, eh bien voyons à quel moment cette radicalisation s'est accélérée.
Alors là, il faut évoquer un événement clé. Il a lieu en septembre dernier. Ce jour-là, de nombreux Tchétchènes sont réunis pour prier, parce que l'un d'entre eux a été tué en pleine rue lors d'une bagarre entre communautés. Anzorov est présent lors de cette prière rituelle. Un proche lui fait alors remarquer qu'il s'est radicalisé. Et voilà ce qui s'est passé selon un ami dont nous avons fait lire les propos.
Il a giflé un mec, un Tchétchène, qui lui a dit qu'il s'était radicalisé. Après, il est allé s'excuser auprès du grand frère du mort parce qu'il a réalisé que c'était déplacé de faire ça dans un moment pareil. Le grand frère lui a répondu « C'est pas moi que t'as giflé, c'est pas à moi que tu dois demander pardon. »
Il s'excuse finalement, mais en attendant, il n'a pas su se maîtriser.
Non, et nous sommes à 3 semaines avant son passage à l'acte, et il semble alors bien plus endurci dans sa pratique de la religion. On le remarque très bien en analysant ses tweets. C'est ce qu'a fait Nicolas Chapuis avec des confrères du journal Le Monde. Ils ont eu accès à 3000 tweets qu'il a publiés entre juin et octobre 2020 sous différents comptes.
Ils disent quoi alors ces tweets ?
Alors ça commence par des blagues entre amis et puis petit à petit, on voit bien que son interprétation rigoriste de l'islam se renforce. Il détaille par exemple sa vision du monde entre ce qui est permis, halal, et ce qui est interdit, haram, comme l'explique Nicolas Chapuis.
Ce qui est haram, par exemple, pour lui, c'est la danse, c'est le chant, les séries Netflix, le caprice des dieux qui ferait, selon lui, l'apologie du polythéisme. Voilà. Mais le sujet qui revient le plus régulièrement, ce sont les femmes, qu'il appelle régulièrement des femelles. Il leur interdit de lui parler sur Twitter. Il se pose des questions totalement absurdes sur comment est-ce qu'il peut regarder dans l'angle mort de son rétroviseur dans sa voiture sans voir des femmes dedans. On comprend que pour lui, une femme ne doit montrer strictement rien de son corps, même pas un bout de cheveux. Pour lui, c'est totalement haram. Mais paradoxalement, on sent qu'il est totalement obsédé par la question des femmes à laquelle il consacre un grand nombre de messages.
Ouais, donc Twitter lui sert à dénoncer ce qu'il estime être haram. Mais est-ce que pour autant, dans ses tweets, Laetitia, il fait référence au djihad ? Est-ce qu'il y parle explicitement de terrorisme ?
Eh bien alors, rétrospectivement, oui, on le comprend en creux en tout cas. À l'examen de ses tweets, on voit bien aujourd'hui qu'il soutient certains groupes terroristes, mais on voit bien aussi qu'il prend toujours garde de ne pas en faire trop.
À plusieurs reprises, il apporte son soutien aux talibans en Afghanistan, à ACMI en Afrique, Al-Qaïda. À un moment, il retweet quelqu'un qui a posté le message de l'État islamique. Mais c'est des messages qui sont en général assez indirects ou un peu tortueux. Et dès que ça touche aux questions de terrorisme, il se montre assez prudent. À plusieurs reprises, il envoie des messages à ses amis qui parlent de ces questions-là pour leur dire « fais-toi discret, pas de ça ici », etc. Donc on sent aussi une volonté de dissimulation dans ces messages.
De dissimulation et du coup les services de renseignement, eux, ils ne voient rien.
Eh bien apparemment non, il n'était pas fiché et pas connu de ces services. Et pourtant, dès le mois de juillet, plusieurs de ses tweets sont signalés.
Et lesquels ?
Eh bien d'abord, le 12 juillet, il est dénoncé à la plateforme de signalement Pharos pour des propos haineux tenus contre le régime chinois et aussi pour avoir soutenu les talibans. Fin juillet, un tweet antisémite est signalé par la LICRA et il est retiré par Twitter. Et puis fin août, selon Mediapart, Anzorov publie un photomontage dans lequel on voit un soldat qui s'apprête à décapiter un autre soldat avec un sabre. Cette image est détournée d'une série turque consacrée à l'histoire de l'Empire ottoman.
Et ça ne suffit pas pour alerter les services de renseignement.
Eh bien, selon plusieurs sources, les propos qui visaient la Chine et l'Afghanistan ont été considérés comme ne visant pas le territoire français. Quant au photomontage, il ne serait pas remonté jusqu'aux services de renseignement. Mais il faut savoir que des signalements de ce type, Pharos en reçoit 230 000 chaque année.
En attendant, tout ça montre tout de même bien que ce qui allait se passer était déjà en germe.
Effectivement, et c'est d'ailleurs juste après l'été que l'engrenage mortel s'enclenche, à partir du 25 septembre précisément. C'est quelques jours plus tard, rappelez-vous, qu'il va gifler un Tchétchène en pleine prière mortuaire parce qu'il lui avait reproché d'être radicalisé.
Ah, et puis il se passe autre chose ce jour-là.
Oui, c'est aussi le jour de l'attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Un jeune Pakistanais qui blesse grièvement avec un hachoir deux personnes de l'agence de production Première Ligne, pensant qu'elles travaillaient au journal satirique.
Et c'est donc à ce moment-là qu'il décide de passer à l'acte et là il va se mettre en chasse, ça semble terrible de dire ça, mais il n'y a pas d'autre mot.
Ben oui, il se met clairement à chercher des cibles, des personnes qui, selon lui, auraient insulté l'islam et qu'il pourrait punir. Et à partir de là, des cibles, il va en chercher au moins deux, comme nous le raconte notre confrère de Libération, Fabien Lebouc, qui a obtenu confirmation des informations publiées par Le Monde.
Il y a une vidéo d'un jeune homme qui est en train de parodier la prière musulmane. Au lieu de prier, il chante du rap. Anzorov va prendre des images de cette vidéo, il va les publier sur son compte et il va écrire « Aidez-moi à le trouver, son adresse, ses coordonnées ». Il y a une personne qui lui demande « Tu comptes faire quoi ?» et Anzorov répond « Parlons peu ». Il reste discret, mais en même temps on devine ses intentions parce qu'un autre internaute, clairement salafiste, il va répondre « Il se moque de la prière, il se moque d'Allah ». Ça c'est la première cible. La deuxième c'est quelques jours plus tard, on est le 30 septembre. Cette fois-ci Anzorov réagit encore une fois à quelque chose qui montait d'abord sur les réseaux sociaux. Il y a un jeune homme qui est accusé d'extorsion, de vidéos, de nus envers une jeune femme vraisemblablement musulmane. Anzorov, en fait, il va récupérer le profil de cette personne, il va en mettre une photo sur son Twitter, encore une fois, et il va dire « S'il vous plaît les frères, je dis jamais s'il vous plaît, dites-moi son adresse », donc pour essayer de retrouver ce jeune homme suspecté d'extorsion.
Et ce jeune homme, il ne l'a jamais trouvé ?
Bah apparemment non, tout comme le jeune qui chantait du rap. Résultat, le 9 octobre, il prend connaissance sur les réseaux sociaux de la polémique qui enfle autour de Samuel Paty, Et la suite, elle est connue.
Oui, on n'a pas besoin de la rappeler.
Non, mais ce qu'on peut noter, c'est que cet attentat intervient 3 semaines après celui qui a eu lieu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris et 15 jours avant un autre dans la basilique de Nice. Des attentats perpétrés également par de très jeunes réfugiés, apparemment isolés, avec une arme blanche et sans aucune revendication par des mouvements djihadistes.
Ce qui rend leur repérage et la prévention de leur acte du coup d'autant plus difficile. Bien, merci Laetitia Chirel. Merci également à Laurent Philippot, le correspondant de France Bleu à Évreux, qui nous a aidés dans cette enquête. Alors je précise qu'on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF. À suivre dans Secret d'Info, le trafic de bébés anguilles, un business aussi juteux que la cocaïne. Moderne et rétro à la fois, une voix grave face aux voix de tête, un clin d'œil au Bee Gees, c'était Losers, le nouveau titre du groupe belge Balthazar.
France Inter, Secret d'Info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Nicolas Legendre en duplex de Rennes, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez dans la revue 21 un article assez étonnant sur le trafic de civelles, dont vous dites que c'est le nouvel ivoire blanc. Alors les civelles, on va le préciser quand même, ce sont des bébés anguilles. Alors expliquez-nous pourquoi ces petites anguilles sont si recherchées.
parce que leur quantité a considérablement décru ces 30-40 dernières années. La civelle, c'est le bébé d'un poisson, l'anguille, qui était extrêmement abondant dans nos eaux, dans les eaux européennes, jusqu'à la dernière partie du XXe siècle. Et les populations d'anguilles, et donc de civelles, ont décru de manière très spectaculaire à partir des années 1970-1980. Ce qui fait qu'avant, c'était un plat du pauvre, à tel point que certains s'en servaient comme colle, comme fertilisant. On mettait ça sur les labours.
Et ouais, puis, c'est gluant comme poisson. Hein.
Oui, c'est translucide, c'est gluant. C'était apprécié d'un point de vue culinaire, mais la quantité de poisson ayant considérablement décru, la demande est restée là, et ce qui fait que les prix se sont littéralement envolés, ici, chez nous, en Europe, et puis à l'autre bout du monde également.
Mais c'est si bon que ça, les civelles ?
Ce qu'on en dit, c'est que ça a assez peu de goût. C'est recherché principalement pour sa texture et puis parce que c'est lié à des traditions culinaires avec des recettes très particulières sur la péninsule ibérique, dans le sud-ouest de la France également. Et puis pour ce qui est des anguilles, les adultes donc, là ça correspond à des traditions très vivaces en Asie.
Alors elles ont disparu, en tout cas il y en a eu enfin, presque plus d'ailleurs, hein, il en restait 1 ou 2% je crois à une certaine époque, à cause de l'urbanisation, à cause des pesticides. Il y a également des anguilles, j'ai vu ça dans votre article, des anguilles japonaises qui auraient amené un parasite qui en a exterminé certaines.
Oui, c'est-à-dire que les anguilles en quelque sorte ont été victimes d'un effet cocktail, c'est-à-dire qu'elles subissent tous les effets de l'augmentation des activités humaines depuis le 19e siècle. Elles subissent la pollution, elles subissent la dégradation de leurs habitats, de leur milieu naturel. Elles subissent également la présence de tout un tas de produits dans les eaux. Ça va des phytosanitaires aux résidus de cocaïne qu'on trouve parfois dans les égouts. Et elles ont subi également, effectivement, des maladies importées du fait de l'utilisation d'anguilles qui venaient d'autres endroits de la planète pour les besoins de l'élevage.
Et du coup, elles sont aujourd'hui protégées et le nombre de civeliers, c'est-à-dire de ceux qui sont autorisés à les pêcher, est réglementé.
Pour ce qui est des civeliers, oui, ils étaient 1 000 000 il y a encore une dizaine d'années en France, assermentés. Ils sont plus que 500 aujourd'hui.
Alors, il faut parler d'une caractéristique quand même des civelles qui est assez extraordinaire, c'est que on ne peut pas la civelle la faire naître en captivité. Donc on peut capturer des civelles pour les élever, mais on ne peut pas en faire naître en captivité.
On n'est jamais parvenu pour le moment à observer la reproduction des anguilles. Les scientifiques pensent qu'elles se reproduisent dans la mer des Sargasses, c'est pas encore totalement sûr, mais on n'a jamais observé leurs ébats et on n'a non plus jamais trouvé d'œufs d'anguilles. Ce qui fait qu'on n'a pas été capable de la faire se reproduire en captivité. Et effectivement, le seul moyen pour élever des anguilles adultes à échelle industrielle, c'est de pêcher des jeunes civelles.
Du coup, la population de civelles ayant baissé, leur prix a explosé. On les vend 100 à 150, à 500 euros d'ailleurs le kilo. Et ça coûte 10 fois plus cher en Asie.
Oui, sur le marché noir asiatique, notamment à Hong Kong, qui est l'une des plaques tournantes mondiales du trafic d'espèces animales, le kilo de civelle vaut, selon les diverses estimations dont on dispose, entre 1 000 et 5 000 euros le kilo, c'est l'équivalent d'un caviar.
Ouais, alors on comprend que du coup, ça intéresse des braconniers. Alors racontons ce qui se passe maintenant sur le terrain. Vous avez des braconniers qui se sont arrogés finalement des territoires dans lesquels d'ailleurs on intimide la concurrence, tout ça pour récupérer des civelles qu'on va vendre sur ce marché noir.
Oui, il y a une géopolitique de l'anguille qui est fascinante parce que on part effectivement des étiers, des marais vendéens, des estuaires, des fleuves côtiers du sud-ouest de la France, du Pays Basque, avec des familles qui sont organisées autour de cette pêche, du braconnage, et puis ensuite des marailleurs, c'est-à-dire des intermédiaires qui parfois ont pignon sur rue puisqu'ils vendent pour certains d'entre eux du poisson de façon officielle, mais qui peuvent avoir une activité illégale, qui eux-mêmes sont en contact avec d'autres intermédiaires, bien souvent dans la péninsule ibérique, mais ça peut également être en Europe de l'Est ou au Maghreb, ces autres intermédiaires étant eux-mêmes en contact, eux, avec des acheteurs en Asie. Et donc, ce sont des filières qui sont extrêmement organisées et dans lesquelles les enquêteurs ont trouvé, à certains moments, la patte de mafia.
Ah oui, on peut parler de mafia parce que quand on regarde comment ces civelles sont transportées, mais quelle imagination quoi. Vous avez une voiture ouvreuse, une voiture suiveuse qui encadre les camionnettes comme des go-fast. Et puis vous avez des espèces de bulles de plastique remplies d'eau dans lesquelles on met les civelles dans des valises pour les transporter.
Oui, parce que le défi pour les trafiquants, c'est de parvenir à faire arriver ces civelles à l'autre bout du monde, vivantes. Il y a diverses solutions, mais l'une d'entre elles, c'est de les mettre dans des valises spécialement aménagées avec du polystyrène, c'est étanche, de l'oxygène, et on considère que les civelles peuvent survivre de cette façon 20 à 24 heures environ. Ça permet de les transporter à l'autre bout du monde. Il y a eu une opération de police en Espagne, au Portugal, il y a 2 ans de ça, et les forces de l'ordre avaient retrouvé, à l'occasion d'une perquisition, 364 valises vides destinées au transport de civelles.
Et vous parlez de mules, un peu comme pour la drogue, des faux touristes chinois assurent le transport dans leurs valises aussi.
Faux touristes chinois, voyageurs d'affaires, qui sont payés à cette occasion et qui, effectivement, ont une vocation de mules, à cette différence près, qui n'ingèrent pas la drogue.
Et un marché qui est essentiellement asiatique, hein, si je comprends bien, même si parfois ça passe par l'Espagne, le Maroc ou l'Europe de l'Est, il y a une autre plaque tournante qui s'appelle Hong Kong.
Oui, parce que il y a une grosse tradition de consommation d'anguilles en Asie, au Japon notamment, avec le fameux kabayaki, l'anguille fumée. Et donc, les civelles arrivant d'Europe par de contrebande sont vendues souvent à Hong Kong, mais ça peut être dans d'autres pays comme la Thaïlande ou le Vietnam par exemple, vont ensuite dans des fermes d'engraissement, en Chine notamment, et sont revendues par la suite une fois qu'elles sont devenues adultes.
Alors Nicolas Legendre, ces civelles exportées clandestinement, elles intéressent de plus en plus la gendarmerie. Il existe un service de 37 enquêteurs qui travaillent là-dessus avec des méthodes qui là aussi sont les mêmes qu'on retrouve dans la grande criminalité.
Oui, donc c'est le l'OCLAESP qui travaille sur le sujet, entre autres délits environnementaux notamment, et ces enquêteurs ont été obligés effectivement de faire appel à des techniques qui peuvent évoquer celles utilisées dans le cadre d'enquêtes pour le grand banditisme, c'est-à-dire filature, écoute, enfin toute la panoplie en fait, parce qu'on a affaire à des trafiquants qui pour certains sont certes des pieds nickelés, mais qui pour d'autres sont chevronnés, donc il y a nécessité d'utiliser en fait des techniques adaptées.
Avec un certain nombre de succès, 2017, vous citez ces 520 kilos de civelles saisies sur l'autoroute A63 dans les Landes. Il y en a d'autres, y compris à Londres d'ailleurs, 200 kilos planqués cette fois-ci dans du poisson.
Il y a eu une série de coups de filet, effectivement, dans le milieu de la civelle, à partir des années 2015-2016. L'étau s'est resserré à l'échelle européenne, avec des enquêtes coordonnées par Europol. Et on a vu tout un tas d'arrestations, de coups de filet, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, au Portugal, en Grèce. Les enquêteurs ont retrouvé ici des lingots d'or, là, des voitures de sport, ailleurs, des liasses de billets. Et puis, en enquêtant, en approfondissant, ils sont tombés sur des comptes offshore, enfin toute la panoplie en fait.
Le pompon, c'est Pau, non ? Enfin, 897 kilos, c'est quand même énorme.
Ouais, saisi record à Pau, effectivement. Ouais.
Alors, question, est-ce que finalement le fait de prohiber la pêche des civelles, c'est-à-dire le fait de ne le réserver qu'à quelques-uns, est-ce que ça n'a pas aussi des effets pervers ? C'est-à-dire, est-ce que ça n'encourage pas le braconnage ?
C'est ce qu'affirment un certain nombre d'acteurs de la profession, du milieu de la civelle, et notamment les pêcheurs français qui déplorent en fait l'inutilité de cette interdiction d'export de la civelle en dehors de l'Union européenne, et même son caractère contre-productif, puisque à l'instar de la prohibition de l'alcool aux États-Unis par exemple au début du XXe siècle, la prohibition de la vente de civelle hors d'UE aurait eu un effet délétère qui est l'augmentation considérable du trafic.
Il y a aussi une dissymétrie, si on peut dire, puisque en Europe, on n'a pas le droit d'exporter les civelles hors de l'Europe. Les Marocains, eux, peuvent le faire.
Oui, tout à fait. Et là, on entre dans la deuxième strate de la géopolitique de l'anguille, c'est-à-dire que on a des firmes européennes importantes, notamment en Europe du Nord, Pays-Bas, Allemagne, qui ont des piscicultures dans lesquelles ils élèvent des civelles qui sont majoritairement pêchées en France, destinées à la vente dans le nord de l'Europe de poissons fumés, d'anguilles fumées. Et certaines de ces firmes sont liées à des piscicultures au Maroc. Il faut savoir qu'il y a aussi des civelles et des anguilles au Maghreb, et que pour ce qui est du Maroc, la loi permet l'export en Asie d'anguilles issues de civelles pêchées sur place.
Une manière de contourner la règle, en fait.
Certains dans la profession déplorent effectivement des stratégies de la part d'industriels européens mises en place pour contourner les règles.
Merci Nicolas Legendre. Alors vraiment, c'est passionnant. On a appris beaucoup de choses. Je rappelle que votre enquête donc s'appelle Civelle Connection. Elle est à lire dans la revue 21. Et merci également à nos confrères de France Bleu Armorique qui nous ont permis d'établir cette liaison. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert. Et à la technique, il y avait Antoine Cruchon. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.